rencontre ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 septembre en direct de Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane.
Au sommaire ce soir, en tournée en Europe, Barack Obama dénonce l'agression russe en Ukraine et promet de sévir contre l'État islamique en Irak et en Syrie.
Au Nigeria, la lutte contre Boko Haram au centre d'une rencontre internationale sur la sécurité.
En RDC, l'ONU déplore la lenteur du désarmement au sein des FDLR.
Et nous aurons bien sûr les sports et la musique en fin d'émission.
Mais avant, le journal.
Nous ouvrons au Nigeria qui a accueilli ce mercredi une réunion internationale sur la sécurité et la lutte contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Le groupe est plus que jamais prêt à s'emparer du nord-est du pays après une série d'attaques fulgurantes ces dernières semaines. Notre correspondant au Nigeria, Aboubakar Gwarzo, fait le point sur la réunion d'Abuja.
C'est le ministre des pays frontaliers du Nigeria, le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun, les représentants des Nations Unies, les représentants des États-Unis et la CEDEAO, ils se sont réunis pour discuter une nouvelle stratégie de lutter contre le terrorisme, précisément Boko Haram, qui dérange la sous-région. C'est une manière aussi de renforcer les frontières. C'est pour cela que les ministres d'affaires étrangères des pays frontaliers du Nigeria se sont réunis à Abuja pour améliorer une nouvelle stratégie, comment lutter contre les militants de Boko Haram. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a demandé aussi les pays frontaliers d'aider le Nigeria aussi à protéger leurs frontières pour que l'armée nigériane combatte facilement les militants de Boko Haram.
Le gouvernement somalien se félicite de l'attaque américaine au drone qui ciblait mardi les leaders du groupe islamiste Al-Shabaab, en particulier son principal chef, Ahmed Abdi Godane. Mais on ne sait pas encore si ce dernier a été tué. Lola Akomachri.
À l'issue d'une réunion d'urgence du cabinet somalien, le porte-parole Ridwan Hadji Abdiweli a exprimé le soutien de son gouvernement à toute opération contre Al-Shabaab. Et il assure que de telles attaques continueront, ajoutant que seul le gouvernement somalien a le droit de gouverner cette nation et non pas des groupes terroristes comme Al-Shabaab. Les militants islamiques n'ont ni confirmé ni infirmé les informations selon lesquelles leur leader Ahmed Abdi Godane fait partie des personnes tuées lors de l'attaque au drone. Celle-ci a eu lieu à 60 kilomètres de la ville portuaire de Baraoué que les forces de l'Union africaine tentent de reprendre dans le cadre de leur offensive. Baraoué est une importante source de revenus pour Al-Shabaab et son dernier bastion dans le sud de la Somalie.
La Guinée fait état d'un nouveau foyer d'Ebola, cette fois-ci dans la préfecture de Kérouane dans le sud-est. Cette région est située près de celle où l'épidémie s'est déclarée. Les autorités disent avoir dépêché des équipes sur place. En Grande-Bretagne, un infirmier britannique contaminé par le virus Ebola en Sierra Leone a quitté l'hôpital à Londres ce mercredi. Nathalie Barge.
William Pooley a été soigné pendant 10 jours au Royal Free Hospital de Londres avec le sérum expérimental ZMAP. Face à l'augmentation des cas d'Ebola, le directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, Tom Frieden, a appelé la communauté internationale à agir de façon urgente afin d'endiguer l'épidémie qui, a-t-il souligné, se répand à l'échelle mondiale pour la première fois. Dans une vidéo traduite en français du département d'État américain, le président Barack Obama, s'adressant directement aux Africains, a présenté ses condoléances aux familles ayant perdu des proches infectés par la maladie. Les États-Unis et leurs partenaires travaillent avec les pays concernés pour contribuer à stopper cette maladie, a déclaré M. Obama, ajoutant que la première étape est de connaître les faits.
Vous ne pouvez pas l'attraper lors de contacts ordinaires, par exemple en étant assis à côté d'un passager dans un bus. Une personne n'est pas contagieuse lorsqu'elle ne présente pas de symptômes comme de la fièvre. Deuxièmement, le mode de transmission le plus courant est le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée ou qui en est décédée, sueur, salive ou sang par exemple, ou avec un objet contaminé comme une seringue. C'est pour ça que la maladie se propage plus rapidement lorsque les patients sont soignés chez eux ou qu'ils sont inhumés par leur famille ou leurs amis.
Sachez aussi que le dernier bilan publié par l'OMS fait état de plus de 1900 morts sur 3500 cas confirmés d'Ebola en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria.
Conflit centrafricain, au moins 5 personnes ont été tuées hier lors d'une attaque à Nana Bakassa, 300 km au nord de Bangui. On compte autant de blessés. D'après un officier de la force africaine MISCA cité par l'AFP, des hommes lourdement armés ont pris d'assaut cette localité. Ils s'en sont pris aux individus et aux maisons. Ces hommes armés ont été identifiés par la population comme étant des ex-rebelles Séléka, a affirmé l'officier sans pouvoir confirmer cette information dans l'immédiat.
Toujours en République centrafricaine, les premiers résultats d'un prélèvement fait ce matin sur une fille de 12 ans soupçonnée d'avoir contracté le virus Ebola se sont révélés négatifs. La population est soulagée, mais le ministère de la Santé appelle à plus de prudence. Le point avec Félix Yepassi Zembrou.
Dans la matinée, la fillette transférée de Zongo en République démocratique du Congo au complexe pédiatrique de Bangui présentait des symptômes proches de ceux de la fièvre hémorragique. La nouvelle a créé une panique généralisée au sein du dit complexe et dans la ville. Certains parents ont quitté précipitamment l'hôpital avec leurs enfants. Il aura fallu plusieurs heures pour que le premier test fait par l'Institut Pasteur de Bangui donne un brin d'espoir. Marguerite Samba Maliavo, ministre centrafricain de la Santé.
Selon les résultats que j'ai reçus de l'Institut Pasteur cet après-midi, l'examen qui a été fait sur cette fille pour la recherche de la maladie à virus Ebola est revenu négatif. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. La population doit rester sereine pour nous aider à mieux gérer cette prévention, cette riposte que nous avons entamée vis-à-vis de cette maladie grave.
Le deuxième résultat du prélèvement est donné jeudi. En attendant, l'enfant et le personnel soignant qui étaient en contact avec elle sont toujours mis en quarantaine provisoirement.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le désarmement des FDLR n'avance pas beaucoup. C'est en ces termes que s'est exprimé Martin Kobler, le chef de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO. La première priorité de la mission, souligne-t-il, c'est encore la reddition volontaire de ces rebelles Hutus rwandais. Mais si cela ne marche pas, l'option militaire est sur la table, a-t-il prévenu. À noter que seuls 200 combattants des FDLR environ se sont rendus sur les 1500 à 2000 hommes que compterait encore le mouvement en République démocratique du Congo.
Et nous restons en RDC. Le député d'opposition Jean-Bertrand Ewanga est maintenu en résidence surveillée dans un hôtel de Kinshasa. C'est ce qu'annonce son avocat cité par l'AFP. Le procès de Jean-Bertrand Ewanga est suspendu depuis hier. Monsieur Ewanga avait été arrêté début août à Kinshasa suite à une manifestation dénonçant toute initiative visant à modifier la constitution pour permettre au président Kabila de briguer un troisième mandat. Il est poursuivi pour incitation à la haine tribale et raciale.
La police a à nouveau cible d'attaque dans la péninsule du Sinaï en Égypte. Des sources sécuritaires citées par l'AFP annoncent qu'un policier a été tué et deux autres ont été blessés aujourd'hui dans deux attaques séparées. Des assaillants à bord d'une voiture ont ouvert le feu et tué le policier alors qu'il rentrait chez lui. Plus tard, deux policiers ont également été blessés dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule blindé. Violences qui interviennent au lendemain d'un attentat qui a coûté la vie à 11 policiers. Le nord du Sinaï sert de bastion aux djihadistes qui s'opposent aux autorités égyptiennes depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a entamé une tournée de 4 jours en Europe. Il s'agit notamment de rassurer les alliés des États-Unis au sein de l'OTAN face à l'agression russe en Ukraine. On fait le point avec Camille Gros-Didier.
Mercredi, le président Barack Obama s'est entretenu en Estonie avec ses homologues estoniens, lettons et lituaniens de la menace posée par la Russie non seulement à l'Ukraine, mais aux États baltes. Ces pourparlers visent, selon M. Obama, à montrer aux trois anciennes républiques soviétiques que nous tenons parole en ce qui concerne nos obligations découlant de traités. Cette escale à Tallinn était la seule étape du président américain avant le sommet de l'OTAN qui réunira les 28 pays membres jeudi et vendredi à Newport, au pays de Galles. Au menu des pourparlers, la crise en Ukraine et les moyens pour l'Alliance de renforcer son aide à Kiev. Les dirigeants doivent notamment se pencher sur la mise en place d'une force de réaction rapide qui pourrait être déployée dans l'est de l'Europe. ce qui suscite de vives protestations de la part de Moscou, qui ne veut pas d'une telle force près de ses frontières.
Le président russe Vladimir Poutine a présenté ce qu'il appelle un plan d'action pour la paix dans l'est de l'Ukraine, Sara Diaby.
S'exprimant à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, le président russe a dit que l'armée ukrainienne et les rebelles doivent cesser les opérations actives dans les régions de Donetsk et Louhansk. Vladimir Poutine demande aussi aux troupes ukrainiennes de se retirer à une distance à partir de laquelle leurs tirs d'artillerie n'atteindront pas les zones peuplées. Il a en outre appelé à un contrôle international du respect de la trêve, un échange inconditionnel de prisonniers ainsi que l'ouverture de couloirs humanitaires. L'Ukraine et l'OTAN disent de leur côté que les troupes, les blindés russes, ont franchi la frontière au cours de récents jours, obligeant les soldats ukrainiens à battre en retraite alors qu'ils avaient gagné du terrain contre les rebelles. Pour le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk, la proposition n'est qu'une mauvaise plaisanterie destinée à la communauté internationale avant le sommet de l'OTAN de cette semaine au Pays de Galles.
Sous la pression notamment des États-Unis et de la Grande-Bretagne, la France vient d'annoncer le report de la livraison du premier navire de guerre Mistral à la Russie. Prévu pour octobre, cette livraison sera donc différée, Paris ayant déterminé que les conditions ne sont pas réunies. La mesure est liée à la crise en Ukraine, selon le communiqué de l'Élysée.
Le président Barack Obama a réaffirmé la détermination des États-Unis à vaincre les djihadistes de l'État islamique suite à la décapitation du journaliste Steven Sutloff.
Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight.
Ces actes horribles ne font que nous unir en tant que pays et renforcent notre détermination à aller combattre ces terroristes. Et ceux qui commettent l'erreur de s'en prendre à des Américains apprendront que nous n'oublierons pas, que nous avons un long rayon d'action et que justice sera faite, a déclaré Barack Obama.
Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. On passe à la partie magazine de notre émission.
Le président Barack Obama a qualifié d'acte horrifiant de violence la décapitation du journaliste américain Steven Sutloff par les militants de l'État islamique. S'adressant à la presse aujourd'hui en Estonie, M. Obama a dit que ceux qui ont tué M. Sutloff ont échoué dans ce qu'ils tentaient d'accomplir parce que les États-Unis et le monde ont été répugnés par leur barbarie et ne se laisseront pas y intimider. Alors...
Dans la vidéo publiée sur l'exécution de Steven Sutloff, l'État islamique avertit que son meurtre est en représailles aux raids aériens américains contre le groupe en Irak. Sutloff est le deuxième journaliste américain après James Foley, le mois dernier à être décapité par les militants de l'État islamique.
J'allais dire, Morgane, que des critiques du président lui reprochent de ne pas avoir de stratégie pour barrer la route à la menace grandissante que constitue l'État islamique. Allant même jusqu'à dire que Barack Obama aurait dû intervenir militairement en Syrie, où le groupe combat aussi le régime du président Bachar al-Assad, dont les Occidentaux réclament le départ.
Alors, quelles options pour le président Obama? La question posée par Idrissa Sedoudia à André de Nesnera, grand reporter de La Voix de l'Amérique.
Mais pour l'instant, c'est l'option militaire, mais pas, les, comme ils disent, les bottes sur le terrain. C'est-à-dire pas de soldats américains. Mais pour l'instant, ils sont en train d'attaquer des bases d'ISIS. Et puis maintenant, la grande question est, est-ce qu'il y aura d'autres pays qui vont se joindre ou est-ce que c'est les Américains qui vont aller tout seuls? Mais au point de vue diplomatie, je ne vois vraiment pas de possibilité dans l'avenir.
Il y en a qui estiment qu'il faudrait, et ça n'a pas été déjà fait, mais que ce n'est pas encore trop tard d'étouffer cette menace dans l'œuf en allant directement en Syrie.
Alors, on se met du côté, justement, du président Assad, parce que lui, il est contre l'ISIS, les Américains aussi. Alors, est-ce qu'on est partenaire tout à coup, là, maintenant? Alors, est-ce que les Américains vont attaquer justement ISIS en Syrie. Donc c'est vraiment une sorte de vraiment une coalescence de forces ou de pays qui normalement ne seraient pas amis, entre guillemets amis.
Les États-Unis disent que de toute façon, ils ne vont pas coordonner si attaque il y a en Syrie avec, Bachar al-Assad.
Oui, oui, ils ne vont pas coordonner, ils ne vont pas lui demander permission. Mais c'est certain qu'une fois qu'ils attaquent, c'est certain que qui est-ce qui attaque ici ? C'est le gouvernement syrien. Donc, ils sont du même côté s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas.
Si les États-Unis décident d'agir en Syrie, ils le feront. Que les Syriens estiment que c'est une violation de leur souveraineté nationale et tout ça, de l'intégrité territoriale de la Syrie, ça a peu d'importance.
Parce que les Américains peuvent dire, oui, nous n'attaquons pas Bachar al-Assad, nous attaquons ici. C'est ici, c'est justement en partie en Syrie, donc pourquoi on ne les attaquerait pas là-bas aussi ? Mais pour l'instant, ils l'ont pas fait.
Ils ne l'ont pas fait, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire ?
Ça se peut. Je suis certain que c'est une des options que les dirigeants américains sont en train de discuter, c'est certain.
Mais ce qui est exclu, c'est des troupes au sol, mais les frappes aériennes avec des drones, avec des avions.
Tout à fait, c'est ça. Ça va continuer. Et d'ailleurs, il l'a dit, je crois, oui, il y a quelqu'un qui a dit dans l'administration américaine, ça peut durer longtemps.
Voilà, c'était André de Nesnera, grand reporter de La Voix de l'Amérique.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Dans un nouveau rapport, Amnesty International dénonce la répression brutale de 4 mouvements de protestation entre juin 2012 et mars 2014 par les forces de sécurité soudanaises, auxquelles l'ONG impute de nombreux homicides illégaux et actes de torture.
Dans une interview accordée à La Voix de l'Amérique, un responsable d'Amnesty International à Dakar a précisé que le rapport examine des informations faisant état de violations des droits humains commises ces 2 dernières années contre des manifestants qui, dans la majorité des cas, se comportaient de manière pacifique. On écoute Stephen Cockburn.
Donc, entre juin 2012 et août 2014, nous avons collecté l'évidence d'une série inquiétante d'arrestations, des détentions arbitraires, d'actes de torture, des cas d'usage excessif de force par les forces de sécurité soudanaises contre les manifestants largement pacifiques. Nous avons trouvé qu'en 2013, au moins 185 personnes ont été tuées lors de ces manifestations. La majorité sont mortes après avoir reçu une balle dans la tête ou dans la poitrine. Beaucoup d'autres ont été abattus de dos. C'est un signe d'une volonté d'écraser les contestations au Soudan suite à une détérioration de l'économie du pays. Il y a aussi des centaines de manifestants qui ont été arrêtés, détenus au secret, maltraités et souvent torturés.
Et Amnesty International s'élève contre l'impunité pratiquement totale avec laquelle les forces de sécurité opèrent.
Exactement. Donc les forces de sécurité au Soudan ont été accordées l'immunité. Et ça veut dire que ces violations des droits humains, ça existe, ça fait ressortir d'un climat d'impunité généralisé dans lequel personne n'est mis devant la justice. Donc malgré les évidences crédibles de violations graves, les autorités soudanaises n'ont jamais ouvert une enquête exhaustive, en partielle et effective. Et elles n'ont jamais apporté réparation aux victimes. Donc sur les 85 plaintes au pénal posées par les familles des victimes, il n'y a qu'une seule à pour l'instant déboucher sur un procès. Pour Amnesty, le message est très très clair. Il faut mettre un terme à la répression brutale de la contestation au Soudan et les membres de forces de sécurité qui ont tué, blessé ou tout.
Voilà, c'était Stephen Cockburn d'Amnesty International qui était joint à Dakar par Camille Grosdidier.
L'ONG se dit particulièrement choquée par le fait que les forces de l'ordre soudanaises ont eu recours à des balles réelles pour disperser les manifestants et qu'en 2012, une dizaine d'enfants ont été tués en une seule journée.
Cap sur le Burkina Faso, dans sa croisade contre la révision de l'article 37 de la Constitution, l'opposition burkinapé est allée à la rencontre de l'Église catholique à travers l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo. Ce dernier a reçu le week-end dernier les partis pro-référendum. C'est le chassé-croisé entre l'opposition et le parti au pouvoir, nous dit notre correspondant Zoumana Wanogo.
Faites du bon travail pour la paix sociale.
C'est avec ces éclats de rire que l'archevêque et le chef de file de l'opposition se sont présentés à la presse après leur entretien à huis clos. Mais que l'on ne s'y trompe pas. L'objet de leur rencontre est loin d'être de la rigolade. On écoute Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition.
Nous pensons que la question de la révision de l'article 37 est une question inopportune et même dangereuse. Il est important que l'Église catholique le sache. Et maintenant, peut-être que sur cette base-là, elle peut jouer le rôle qu'elle doit jouer dans une société pour parfois ramener les gens à la raison ou les ramener ou les inviter à s'asseoir pour discuter et dialoguer. Nous attendons d'abord qu'elle ait une compréhension des positions politiques de l'opposition. Et c'est pour ça que nous venons la voir. Mais nous l'attendons surtout qu'elle interpelle l'ensemble des acteurs de la vie politique sur la gravité de la situation et qu'elle leur donne les conseils avisés sur la voie qui doit être suivie pour éviter que notre pays ne sombre dans le chaos.
L'opposition et les partis au pouvoir semblent se marquer à la culotte. Il y a quelques jours seulement, le parti de Blaise Compaoré et ses alliés étaient chez l'archevêque. Alors, comment comprendre ce chassé-croisé? Suivons les explications du maître Binewende Sankara.
C'est plus qu'à la culotte, il ne faut jamais lâcher. C'est un combat de titans, il est de longue haleine, l'essentiel c'est qu'on va y arriver. L'opposition politique continue à faire son plaidoyer en attendant que M. Blaise Compaoré entende raison. Donc nous ne copions pas du tout le Front Républicain ou le parti au pouvoir, pas du tout.
Zubana Onogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Khalil Gueye avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'Ebola qui poursuit sa course macabre en Afrique et vient d'apparaître dans un sixième pays, le Sénégal. Les premiers essais cliniques de vaccins sur des humains ont commencé. Que pensez-vous de la gestion de cette crise par la communauté internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur La Voix de l'Amérique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Nous sommes en direct au Studio 13 à Washington. Retour sur la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Cinq pays frontaliers de la Côte d'Ivoire sont touchés. Les internautes ivoiriens chantent contre l'Ebola. Une initiative pilotée par le journaliste-blogueur Israël Guébo. Précision, Sarah Diaby.
L'Afrique centrale est désormais concernée avec la République démocratique du Congo qui vient de confirmer plusieurs cas à Djéra dans la province de l'Équateur. Ses voisins touchés, la Côte d'Ivoire est sur le pied de guerre et privilégie la prévention. Les autorités ont pris plusieurs mesures de sécurité dont la fermeture des frontières avec les pays touchés. Les internautes ne veulent pas rester en marge de cette sensibilisation. Ils ont décidé de lutter contre le virus à leur manière, en chanson. Stop Ebola, c'est le titre donné à ce morceau ficelé en quelques jours dont le clip a été réalisé en une journée. Israël Yoruba, blogueur et journaliste, compositeur de la chanson, veut mettre ses compatriotes en garde contre la réalité de la maladie.
Vous savez que le gouvernement a lancé une grosse campagne de communication autour de la sensibilisation contre la propagation du virus Ebola. Et je me suis dit qu'à côté de cette campagne officielle et institutionnelle, il y a aussi une campagne, une action que les citoyens doivent mener, chacun avec ce qu'il a, chacun avec le talent qu'il a.
Pour l'initiateur du projet, chacun à son niveau doit jouer un rôle important et la prévention en Côte d'Ivoire est en marche. Selon lui, le message est entendu par les Ivoiriens, même s'il reste encore beaucoup à faire.
Aujourd'hui, la vidéo a plus de 10 200 vues sur YouTube. Il y a plus de 2000 partages sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a un écho. Par contre, il faudra l'accentuer avec des actions beaucoup plus, j'ai envie de dire, réelles, par opposition au monde virtuel. Parce que si Internet, ça bouge beaucoup, il faut qu'on arrive à transposer cette musique-là maintenant. Il faut qu'on l'entende dans les bars, dans les maquis, dans les maisons, dans les voitures, afin que le message passe.
Au travers de cette chanson, le blogueur veut aussi sensibiliser les pays voisins, l'Europe et le monde entier avec le sous-titrage de la chanson en anglais et en allemand.
C'est un message qui est fait pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour tous les pays qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous sommes en train de finir la version sous-titrée en anglais et la version sous-titrée en allemand pour que partout dans le monde, le message soit entendu et produit à chacun. Il faut se laver les mains avec de l'eau du savon, il faut éviter de manger la viande de brousse et puis il faut observer toutes les règles d'hygiène qui ont été émises par le gouvernement.
Le bilan de l'Ebola est lourd. Contre un tel danger, la prévention semble le moyen le mieux approprié pour freiner l'épidémie.
Les
place au sport avec Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Morgane.
Suite de l'Open de tennis à New York, la Russie, Ekaterina Makarova accède en demi-finale.
Et oui, elle a battu aujourd'hui la Bélarusse Victoria Azarenka 1-7, 6-4 et 6-2. Elle croisera en demi-finale soit la numéro 1 mondiale Serena Williams ou l'italienne Flavia Panetta. Et pour la première fois depuis 2011, la Danoise Caroline Wozniacki s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open des États-Unis. Elle n'a eu besoin que d'un peu plus d'une heure pour laminer l'italienne Sara Errani 1-7, 6-0 et 6-1. Son adversaire en demi-finale, la chinoise Peng Shuai. Chez les hommes, Roger Federer a eu lui aussi la tâche facile en huitième de finale. Il a battu l'Espagnol Roberto Bautista Agut en 3-7, 6-4, 6-3 et 6-2. Il croisera en quart de finale le Français Gaël Monfils qui a défait le Bulgare Grigor Dimitrov.
Et pendant ce temps, la phase de groupe du mondial de basketball homme se poursuit en Espagne.
La Turquie, vice-championne du monde, a défait de justesse la Finlande après prolongation sur le score de 77 à 73. Une mauvaise journée pour les représentants africains puisque l'Argentine a défait le Sénégal 81 à 46. Mais le Sénégal avance tout de même en huitième de finale et cela pour la première fois de son histoire. L'Égypte sombre face à l'Iran 88 à 73. L'Angola s'est bien démenée avant de s'incliner en fin de partie 87 à 93 face à la Slovénie.
En football, l'attaquant togolais Emmanuel Adebayor a rejoint la sélection togolaise pour le match de vendredi contre le Maroc à Casablanca.
C'est une rencontre qui compte pour la première journée des qualifications de la CAN 2015. Adebayor est donc revenu à de meilleurs sentiments après plusieurs mois de boycott du 11 togolais, c'est ce que rapporte l'AFP. Le sociétaire de Tottenham était mécontent de la manière dont la sélection nationale togolaise était gérée.
Voilà, on passe tout de suite à la page musicale avec Roger Montou. Alors, salut Roger.
Salut Gabi, salut Morgane.
Alors, comment dit-on belle en espagnol?
je ne sais vraiment pas.
Hermosa,
hermosa, bella, bene, bella. Je ne sais pas, mais écoute, la chanson de Maître Gims, hein, c'est Bella, une chanson très, 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 très cool. Hein, comment on dit à Abidjan, hein, très doux. Voilà, au Mali, on dit très doux. Mais on écoute Maître Gims dans Bella.
Bella. Bella.
Le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil. Tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner. À devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois.
Roger, voix incontournable du groupe Section d'Assaut. Maître Gims est devenu le grand patron du rap français.
Oui, Gabi, et les raisons sont multiples. Hein. Maître Gims est la grande révélation et surtout la grande voix du groupe Section d'Assaut. Grâce au succès du groupe, le chanteur chante désormais en solo son premier album, hein, Subliminal. Continue à se vendre, comme on dit à Kinshasa, comme du pain.
Maître Gims, Bella, merci Roger.
De rien, Gabi.
Vous retrouverez Roger Montou dans le RM Show à 20h, temps universel, tout à l'heure.
Elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Oui, c'est un phénomène qui est monté nos rêves. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis, tremblant comme des feuilles, elle te caressait.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Et laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix d'Amérique. Prochain rendez-vous demain, Gabi.
Oui, demain avec Morgane Guiriec et Chérubin Orsil.
Juste une pierre sur son chemin.